Alors j'ai mis un titre à mon message. Dieu est juste. C'est facile de dire Amen. Moi aussi je dis Amen. Hein. Mais franchement, il y a des fois quand on lit la parole de Dieu, on s'interroge. Et quand on dit Dieu est juste, on sous-entend quand même parfois qu'on a du mal à le comprendre. Et parfois on peut se dire Dieu est-il réellement juste ? J'ai pas osé mettre ça comme titre. J'ai marqué que Dieu était juste parce que c'est vrai que Dieu est juste. Mais parfois, dans certaines situations, on pourrait se dire, mais, Seigneur, mais où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi ça? Pourquoi si? On va lire un passage dans Habacuc. Habacuc 1.1, c'est pas facile à trouver. Miché, Nahum, Habacuc, Sophonie, Zacharie, Malachie. Si vous êtes à Malachie, c'est avant. Hein. C'est dans l'Ancien Testament, c'est pas très facile à trouver. Habacuc. Habacuc, c'était un prophète qui a vécu dans une période où vraiment le peuple d'Israël était au plus mal, c'est avant la déportation. Voilà. Donc Habacuc regardait, et il se posait beaucoup de questions. Et Habacuc va dire, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Si vous lisez le prophète Habacuc, vous allez voir, Habacuc se pose des questions. Et il doit se dire, il n'ose pas le dire, l'écrire, mais Dieu est-il réellement juste? Il y a tant de choses mauvaises devant mes yeux et tu n'interviens pas. C'est Habacuc, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Habacuc. Et tu n'interviens pas. Il y a beaucoup de dépravation, il y a beaucoup de corruption au niveau de ceux qui dirigent le pays et tu n'interviens pas. Voilà. Le méchant prospère et le juste, lui, il a du mal à survivre. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout est à l'envers. Et c'est ce que va dire Habacuc. Il va dire ça au Seigneur. Il va dire ça. Et puis il va dire, maintenant, Seigneur, j'attends une réponse. Et Dieu va lui répondre. Dieu va répondre à Habacuc. Et Dieu va lui dire, tu sais, Habacuc, je vais envoyer les Chaldéens pour châtier ce peuple. Et là, Habacuc, il se dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tu vas utiliser des gens encore pires pour châtier ton peuple, et Habacuc ne comprend pas. Vous lirez, on ne va pas prêcher sur Habacuc, mais vous lirez le questionnement de ce prophète, et il faut bien reconnaître que parfois dans nos vies, même quand on étudie la parole de Dieu, eh bien, on est un peu surpris parfois devant les décisions de Dieu. On voudrait, nous, que ça arrive tout de suite. Frédéric, il est venu là pour l'onction d'huile. On voudrait que tout de suite, la guérison soit là, instantanée. Et puis peut-être qu'elle va être instantanée. Merci Seigneur, peut-être que ce sera ce soir, peut-être que ce sera demain, je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne sait pas, voyez-vous. Mais Dieu a un plan. Ça, je le dis, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et Dieu est juste, ça c'est certain, c'est certain. Mais parfois, on peut se questionner. Je vais prendre dans la parole de Dieu deux exemples. Deux exemples. Et là, on va être confronté vraiment à un grave problème parce que deux hommes qui ont fait des erreurs, l'un va être élevé et l'autre va être condamné. Et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que Dieu est juste. Voyez-vous ? Alors, on va prendre le premier exemple, c'est Saül. 1 Samuel 13:8. Voilà. Saül a attendu 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'Holocauste. » Voilà. Saül était confronté à un grave problème. C'était le roi d'Israël, et là, il y avait l'ennemi du peuple, eh bien, qui était là, qui s'était regroupé, qui allait attaquer le peuple. Et Samuel avait dit à Saül, eh bien, on offrira un sacrifice avant, on va consulter l'Éternel, parce qu'on ne va pas aller au combat seul, on va solliciter l'aide, la bénédiction de Dieu. Ça paraît élémentaire quand on est chrétien, quand on est un homme de Dieu, et lui, c'était le roi d'Israël. Et Samuel lui avait dit, je viendrai, j'offrirai l'Holocauste. Et Saül, il regarde autour de lui, les Philistins sont là, alors ça, il les regarde bien, ils sont très nombreux, très nombreux. Et puis le peuple d'Israël est là, et c'est difficile d'attendre. L'attente, juste avant des événements, c'est toujours un peu difficile, c'est difficile. Et là, Saül, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le peuple commence à avoir peur, à se décourager. Il y en a qui s'en vont. Et puis, ils se disent, mais je vais me retrouver seul. J'essaye de montrer pour les raisons qui ont fait que Saül a offert le sacrifice. Voilà. Les Juifs commencent à s'enfuir, à partir d'un côté et de l'autre. Et bien sûr, Samuel, il a des yeux pour voir. Et vous savez que dans la vie, souvent, les mauvaises choses, les choses qui vont nous abattre, on les voit très bien. On les voit très bien, beaucoup mieux parfois que celles qui vont nous élever. Ça, c'est un problème. Enfin, ce n'est pas le sujet de la prédication ce matin. Et donc, à un certain moment, c'est un homme d'action, Saül. Il va dire, apportez-moi le sacrifice. Et Saül va offrir le sacrifice. Voilà. Donc, on pourrait se dire, effectivement, c'est une situation extrême. Eh bien, à situation extrême, eh bien, une solution exceptionnelle. Une solution exceptionnelle. Qu'en pense la parole de Dieu ? 1 Samuel 18, ça, c'est ce qu'avait dit Samuel. « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que tu dois faire. » Il faut savoir que dans la loi, à l'époque, eh bien, seuls les sacrificateurs pouvaient offrir les sacrifices. Seuls les sacrificateurs. Il y a 2 exceptions. Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Et le deuxième, une exception extraordinaire, c'est Jésus. Jésus. Mais sinon, c'était interdit de cumuler les 2 fonctions. On ne pouvait pas être roi et sacrificateur ou sacrificateur et roi. C'était séparé. Seul le sacrificateur pouvait offrir le sacrifice. Samuel va répondre à Saül. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Jusque-là, ça semble juste. Vous êtes d'accord avec moi ? La loi disait, en tant que roi, tu n'as pas le droit d'offrir les sacrifices. Saül offre le sacrifice. Voilà le châtiment de Dieu qui arrive. C'est un peu difficile quand même, malgré tout. C'est un peu dur, le châtiment. Mais il faut se rappeler quand même que Saül, c'était l'exemple du peuple, c'était le roi. C'était le roi. Et si le roi commençait à agir un peu n'importe comment, imaginez le peuple. Il devait donner un exemple. Donc jusque-là, on peut comprendre. Donc Saül a désobéi et la sanction est tombée et Dieu rejette Saül. Quand on lit ça, ça... Mais Dieu est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu est Dieu. Voilà. Saül est rejeté. Je vais prendre un deuxième exemple. Comme ça, vous allez bien comprendre la situation. Et cet homme, il s'appelle David. Matthieu 12, 3. J'ai pris exprès le passage dans le Nouveau Testament parce que c'est Jésus qui le cite. Jésus avec ses disciples, c'est un jour de sabbat, ils traversent des champs. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre des épis de blé, ils vont les ouvrir et ils vont manger des grains de blé. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà fait, moi j'ai déjà essayé, ce n'est pas extraordinaire, je préfère quand c'est cuit en fait. Mais enfin, ça se mange, hein. J'ai déjà essayé. Mais enfin. Donc ils ont fait ça, et les pharisiens, vous savez, c'est ce que je vous disais, les choses un peu négatives, on les remarque tout de suite. Les pharisiens, ils étaient vraiment à l'affût de ça, ils disaient, mais comment ça se fait que tes disciples, ils mangent le jour du sabbat, ils travaillent, enfin on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais ils font la réflexion à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre ? Il va donner cette parole. Matthieu 12, 3. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition qui n'étaient permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ?» Vous voyez, si on prend que ce texte, les choses sont claires. Les pains de préposition, c'était des pains un peu spéciaux qui étaient offerts à l'Éternel. Et là aussi, c'est ce qui est écrit, mais c'est écrit aussi dans le Lévitique, seuls les sacrificateurs avaient le droit de manger ces pains. Et le commun des mortels n'avait pas le droit d'y toucher, n'avait pas le droit de les manger, c'était interdit. De la même façon que pour Saül, c'était interdit d'offrir le sacrifice. Mais là, David, il va arriver, il va manger les pains de proposition. Donc, on se dit, c'est un peu semblable. Il est passé outre la loi. Dans le cœur de Saül, de David, il s'est dit, la vie est supérieure à des ordonnances un peu techniques. Et c'est vrai, si je meurs de faim, il y a les pains de proposition, c'est interdit de les manger, mais je meurs de faim. Donc je prends les pains de proposition, je les mange. D'accord ? Alors là, on se retrouve quand même devant un problème. Dieu est juste. Donc là, Samuel aurait dû dire, chez Stravag, comme dirait l'apôtre Paul, Samuel aurait dû dire à David, tu n'as pas obéi à la loi de l'Éternel, toi le roi d'Israël, tu aurais dû être un exemple, l'Éternel te rejette et je viens choisir quelqu'un d'autre. D'accord ? Ça paraît logique. Eh oui, je ne paraphrase pas, c'est ce que dit la parole de Dieu, moi je répète simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien David va donner cet exemple comme quelque chose de bien. Voyez-vous ? En disant qu'il a eu raison de faire ça. Alors là je suis très très étonné parce que je me dis, comme Habacuc, je me dis, mais Seigneur, toi qui es juste, regarde. Saül, il avait des excuses, le peuple partait, c'était pour le salut de ton peuple. Il offre le sacrifice, tu le rejettes. Bien sûr, il n'avait pas le droit de le faire. Tu le rejettes. David, il avait faim. Et ouais, c'est sûr, quand on a faim, quand vous jeûnez, là, pas le quatrième, à la fin du premier jour, c'est là qu'on commence à avoir faim. Après, ça va mieux, c'est plus facile. Voyez-vous, il avait faim, lui et ses hommes. Il fuyait Saül. David, eh bien, il mange les pains de proposition, et tu ne le condamnes pas. Ça ne vous choque pas ? C'est vrai, moi ça me fait quelque chose. Alors je me dis, Seigneur, est-ce que tu fais une différence ? Est-ce qu'il faut être beau, riche et en bonne santé pour être béni ? Le pauvre, laid et malade, lui, on le rejette ? Tu vois ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que Dieu fait des différences ? J'ai pris un autre passage pour toucher du doigt justement ce problème en Malachie 1:2. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Je n'ai fait que prendre la parole de Dieu, voyez-vous. J'ai pris que la parole de Dieu. C'est des exemples de la parole de Dieu. Et ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors je me pose des questions, comme Habacuc. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions devant Dieu ? Est-ce qu'on a le droit de dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas. » Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? On a le droit, puisqu'Habacuc l'a fait. Et le Seigneur a répondu à Habacuc. C'est pas mal de dire à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas ta façon de faire. Je ne comprends pas ta manière d'agir. Je ne comprends pas si. » Voilà, Habacuc l'a fait, voyez-vous. Et c'est vrai que nous pouvons le faire. Mais là, on est quand même confronté à un problème. Alors là, on va rechercher dans la parole de Dieu une solution. Je ne dis pas que c'est la solution pour tous les problèmes, mais c'en est une extrêmement importante, qui va nous montrer pourquoi Dieu a condamné Saül et pourquoi Dieu n'a pas condamné David. Voyez-vous ? 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est intéressant. Ça va nous aider à comprendre. Là, Samuel, toujours le même, le grand prophète Samuel, à la suite des problèmes avec Saül, il est chargé d'oindre un nouveau roi. On versait de l'huile sur la tête du roi pour lui dire, pour le mettre à part. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne fait pas trop ça parce que si ça coule sur les costumes, tout. Bon, c'était comme ça, on faisait comme ça. Et puis, donc, Samuel arrive dans la famille d'Isaïe et là, il y a tous les fils qui passent. Et Samuel ne savait pas qui il allait oindre d'huile. Il ne savait pas qui était le futur roi d'Israël. Alors, il savait que c'était dans la famille d'Isaïe. Il arrive, Isaïe fait passer tous ses fils. Et à un certain moment, il y a un gars qui arrive, grand, beau, magnifique. Et là, Samuel, il se dit, j'ai l'impression que si Samuel s'est dit ça, on se serait tous dit ça. En voyant ce gars, Eliab, on se serait dit, ça c'est sûr, vraiment, c'est un roi. Il a la prestance, il a vraiment le port, il est, franchement, ça va être lui le roi. Ça va être lui le roi, voilà. Et c'est ce que pense Samuel, c'est ce que pense Samuel. Mais là, Dieu lui dit, non, non, Samuel, ça ne sera pas lui. Moi, j'en ai choisi un autre. Et là, Samuel est surpris. Il est surpris. Et il va demander à Isaïe, il va lui dire, mais je ne comprends pas, là, tu as fait passer tous les fils. Et il lui dit, non, 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 il en reste un, mais tu sais, le dernier, je te promets, c'est... J'allais dire, c'est un cadeau, je ne sais pas. Il est en train de garder les brebis. C'est bizarre, hein. On n'a pas le temps de s'étendre justement là-dessus, mais ça, c'est intéressant d'étudier l'histoire de David. On voit que tous les frères sont là, mais il en manque un quand même. Voyez-vous, c'est quand même très très différent. On dirait qu'il y a deux statuts dans cette famille. Il y a pour certains, c'est comme ça, et puis pour un autre, c'est un peu particulier. Il va garder les brebis. Ce n'était pas une famille très très pauvre. Hein. Ils auraient pu faire garder les brebis par des serviteurs ou je ne sais quoi. Non, non, c'est ce fils qui va garder les brebis. Il reste David, qui est en train de garder les brebis. Et là, Samuel lui dit, fais venir David. Et là, le Seigneur lui dit, c'est lui. C'est lui. Dieu n'a pas regardé à l'apparence, il a regardé au cœur. Là, c'est étonnant parce que Samuel s'est laissé tromper par son jugement. Et c'est là où est le problème. C'est que nous avons l'habitude... Eh bien, de juger des situations, parce que nous ne sommes que des êtres humains, en fonction eh bien, d'éléments que l'on a, que l'on voit, que l'on considère, mais on ne voit pas tout. Est-ce que vous savez ce que pense votre voisin? Non. Est-ce que vous savez ce qu'il... Bon, je vais arrêter, ce qu'il pense de vous. Il pense que du bien, je vous rassure. Je vous rassure, mais si le Seigneur avait voulu qu'on sache... Ça, il l'aurait fait, mais c'est bien aussi que ce soit caché, parce qu'il y a des instants de colère qu'il vaut mieux pas savoir. Enfin, c'est un autre problème, ça. Mais voyez-vous, nous, on ne voit que ce qui est visible. Dans une action, on ne voit que le résultat. Et on se dit, ça, le résultat est bon, donc on en conclut, donc c'est bon. Le gars, il a fait un bon travail. On dit, c'est bien, voyez-vous. Et c'est ça, notre logique. Mais lui, mais Dieu dit... Moi, je ne regarde pas comme vous. Je ne regarde pas le résultat, je regarde au cœur. Si vous êtes capable de faire ça, vous me le direz, moi, je ne suis pas capable. Je regarde à ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur. Donc, je regarde à quoi? Je regarde à l'humilité du cœur, à l'amour du cœur, à la bonté, voyez-vous, à ce qui se passe, aux motivations. Je regarde à ça. Ah bon? Et là, ça devient complexe. Alors, je vous propose une chose. On va regarder, on va essayer de voir Saül avec cette vision de Dieu, regarder Saül différemment. Pas regarder les résultats, pas regarder les pressions qu'il y avait sur cet homme, mais essayer de regarder, de discerner les sentiments de Saül. Et on va faire de même pour David. On va essayer de comprendre non pas ce qu'ont fait ces hommes, mais ce qui les a poussés, ce qui les a entraînés à agir. Voyez-vous ? Et pour essayer de comprendre les décisions de Dieu. Concernant Saül, 1 Samuel 15, 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Je n'ai pas pris tous les versets, parce qu'on n'a pas le temps ce matin, puis c'est pas une étude biblique. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui est flagrant chez Saül. Saül attache beaucoup d'importance à l'apparence, à ce qui se voit et à sa réussite. Viens avec moi. Il faut que le peuple voie que tu es d'accord avec moi parce qu'il faut que tu sois là. Toi, tu es le sacrificateur. Tu es le sacrificateur, et prophète et sacrificateur, et moi, je suis le roi. Et il faut que le peuple, pour qu'ils aient du respect pour la royauté, il faut que vraiment ils voient l'unité. L'unité, voyez-vous. Et même si ce n'est pas papa, même si ce n'est pas bon, même s'il y a des problèmes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'apparence. Ce qui compte, eh bien, c'est ce que vont voir, c'est ce que va voir le peuple, voyez-vous. Et Saül, ce qui est important pour lui, eh bien, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'avenir du peuple, ce n'est pas ça. Ce qui est important pour lui, c'est sa royauté, c'est l'importance qu'il a, le pouvoir qu'il a, voyez-vous. C'est ça qui est important. Et Samuel va lui dire, non, Saül, c'est terminé, on n'agit pas comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Saül, eh bien, va attraper Samuel. Je pense qu'il va l'attraper d'une manière un peu énergique. Parce que les manteaux, à l'époque, c'était quand même, souvent c'était de la laine, hein. C'est quand même assez costaud, hein. Le manteau de Samuel a été déchiré. J'imagine que ça n'a pas été, viens mon petit Samuel, moi le roi je te dis, tu viens ici, puis c'est tout. Il l'a attrapé, mais d'une manière très énergique, le manteau se déchire. Voyez-vous, c'est un signe. Et justement, Samuel va lui dire, tu vois, le manteau s'est déchiré, mais Dieu déchire la royauté de dessus toi. Voyez-vous, et il confirmera la condamnation. On aurait pu prendre d'autres exemples, je peux en rajouter juste un comme ça. C'est que on voit dans le cœur de Saül des sentiments qui sont très personnels. L'œuvre de Dieu, bon, peut-être il a du souci pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple, mais il a essentiellement du souci pour lui, pour son avenir, pour lui. C'est ça. Et de toute façon, Samuel lui dira, quand tu étais petit, à tes propres yeux, Saül, Dieu ne t'a-t-il pas donné toute la royauté, toutes ces richesses? Dieu ne t'a-t-il pas donné tout cela? Voyez-vous, on voit dans Saül les sentiments qui ne sont pas très nobles. On va regarder pour David. Pour David. 2 Samuel 6,16. Car l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, qui était la femme de David, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. L'arche de l'Éternel revient dans le pays d'Israël, et là David se réjouit. Et c'est le roi d'Israël, voyez-vous. Et là il se réjouit, il va manifester sa joie, il va danser, voyez-vous, à tel point que sa femme, Michal, va dire, mais ce n'est pas le comportement d'un roi. Elle a eu honte, voyez-vous, elle était gênée. Elle a dit, mais un roi qui se comporte comme ça? Voyez-vous, elle l'a méprisé. J'ouvre une parenthèse. Michal a été stérile jusqu'à la fin de ses jours. Je ferme la parenthèse. Vous savez, faut faire attention malgré tout. Il faut faire attention. Hein. Et elle va mépriser David. Voyez-vous. Et là, je veux montrer un David qui aime Dieu et qui n'a pas de souci avec l'extérieur. Il est roi parce que Dieu l'a voulu. Il fait telle ou telle chose parce que Dieu le veut. Il remporte des victoires parce que Dieu lui donne des victoires. C'est différent. C'est totalement différent. Et là, j'ai noté la réponse. Il va y avoir un bon climat dans le couple, Michal-David, parce que en 2 Samuel 6,21, David va lui répondre. Voyez-vous ? David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur la maison de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est écrit là. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et là, on discerne les sentiments qui sont dans le cœur de David. Et là, on est aux antipodes des sentiments qui animaient Saül. Voyez-vous, Imaginez un petit peu la soirée, je ne sais pas, je dis la soirée, peut-être, je ne sais pas si c'était la soirée, quand il s'est expliqué avec Michal, ça a dû voler bas. Hein, parce que Michal, quand elle a dû entendre ça, elle n'a pas dû être tellement réjouie. Hein. C'est à cause de ça que, ton père, que Dieu a rejeté Saül, ton père. Bon, voilà. Mais en fait, il avait raison, David. C'était un homme humble. Et il voulait rester dans l'humilité. Et la force de David, ça a été l'humilité. Alors, concernant ce que nous avons dit tout à l'heure, concernant eh bien, c'est ce problème de Saül qui offre le sacrifice, ce problème de David qui mange les pains de proposition, qu'est-ce que Dieu a vu dans ces situations ? Puisque Dieu ne voit pas la même chose que nous, puisque Dieu ne regarde pas les résultats, puisque Dieu ne regarde pas comme nous, ne voit pas comme nous, dans le premier cas, Dieu a vu, concernant Saül, un homme orgueilleux, un but de lui-même, un homme qui voulait la royauté pour lui, qui voulait plaire, un homme qui voulait régner, qui voulait être le roi, respecté comme roi. Voilà ce que Dieu voit au niveau de Saül. Et au niveau de David, que voit Dieu ? Eh bien, Dieu voit un homme, un homme qui se sait roi parce que Dieu l'a voulu, un homme qui se sait victorieux parce que Dieu lui donne la victoire, un homme qui réussit parce que Dieu lui donne la réussite, un homme qui demeure dans l'humilité. Voyez-vous ? Et là, nous avons deux visions totalement différentes et nous nous rendons compte qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur des hommes, c'est les motivations. 1 Pierre 5,5 « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est écrit plusieurs fois, j'ai pris celui-là, parce que je ne vais pas tous vous les citer. J'ai écrit celui-là. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, je suis très humble. Et je mets un point d'honneur à être humble. Voyez-vous, je suis le plus humble de l'Église. Non, dis pas amen. Non. L'orgueil, c'est sournois, l'orgueil. C'est sournois, l'orgueil. Si je suis rien, je suis humble, ça me paraît plus facile. Mais plus je m'élève, plus j'ai de la réussite, plus on aurait au conditionnel tendance à se dire « j'y suis un peu pour quelque chose ». Vous savez, la réussite professionnelle, on pourrait se dire « il y en a qui réussissent, merci Seigneur ». Mais parfois on pourrait se dire j'ai des capacités. Voyez-vous, j'ai travaillé. Voyez-vous, l'orgueil, c'est difficile, l'orgueil. C'est compliqué, l'orgueil, voyez-vous. Et Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, je veux me méfier de l'orgueil. Je veux me méfier. On pourrait penser parfois, eh bien, que ce que j'ai, c'est ce que j'ai gagné. On pourrait se dire parfois, eh bien, ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai eu des capacités. Voyez-vous, l'orgueil, vous savez. C'est compliqué l'orgueil. Et ça arrive plus vite qu'on l'imagine. Et il y a des fois, quand on se prend des réflexions, eh bien, quand on est blessé, c'est que derrière, il y avait quand même de l'orgueil. Non ? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous me dites après le culte, Dominique, la prédication, c'était mauvais. Je ne dis pas que vous allez le dire, j'espère que non. Mais si je suis blessé, qu'est-ce que vous avez ? C'est mon orgueil qui a été blessé. Et plus je serai blessé, plus mon orgueil aura été grand. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voyez-vous ? Mais si je reste humble, et que vous me dites, Dominique, tu sais, ta prédication, pas terrible. Et que je dis, Seigneur, écoute, hein, c'est toi qui conduis, voyez-vous ? Là, on touche l'humilité. Voyez, ce que je veux dire, c'est que l'humilité et l'orgueil, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Seigneur, montre-moi si je suis sur une bonne voie. Montre-moi. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Je vais conclure. Vous voyez, je ne suis pas très long. Je vais conclure. Ce n'est pas... C'est un thème que j'aime beaucoup et je bénis Dieu pour cela. Ce n'est pas ce que nous faisons qui a de l'importance. Ce n'est pas ce que nous faisons qui a de l'importance. Et voyez-vous, si on réfléchit bien à cela, c'eût été très injuste d'être jugé sur les résultats et sur ce que nous faisons. Pour quelles raisons? Eh bien, nous n'avons pas les uns et les autres tous les mêmes capacités. Voyez-vous, celui qui arrive à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, voyez-vous, il a des capacités, mais l'autre, il n'y arrive pas, alors tu vas être moins grand que l'autre, parce que toi, tu n'y arrives pas. Non, on n'est pas jugé, ce n'est pas ce que nous faisons qui a de l'importance. Il y en a qui ont des facilités pour témoigner, béni soit Dieu. Moi, je vois mon épouse, je n'aurais pas dû parler de ça. Il y a des gens qui... Pardon. Il y a des gens qui ont des facilités pour parler et qui sont capables de témoigner très facilement et qui vont avoir des rapports humains très faciles, voyez-vous, et qui vont témoigner, puis des âmes venir au Seigneur. Béni soit Dieu pour ces personnes. Béni soit Dieu pour ces personnes. Et on va dire, oh là là, j'ai amené tant de personnes au Seigneur, voyez-vous. C'est embêtant. Ça pose un problème. Ça pose un problème, c'est toi qui apportes les âmes au Seigneur. Voyez-vous? Après, il y a cette personne-là qui, elle, est beaucoup plus timide et qui a du mal à parler aux gens, qui a du mal à avoir ce contact. Ça arrive aussi. Il y a de tout. Hein. Il y en a qui sont, je ne veux pas dire timides parce que c'est condamné par la parole de Dieu, mais il y en a qui ont plus de réserve. Les Nordiques. Les Marseillais, c'est plus facile, ils parlent plus. Les gens du Nord, ils parlent moins. Voyez-vous, ils ont plus de mal. Mais si cette personne, elle prie, si cette personne, elle prie Dieu pour que des âmes se convertissent, ça ne se voit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voyez-vous? Et moi, je vais dire, oh là, cette personne-là, on a intérêt à en prendre soin dans l'Église, parce que grâce à elle, il y a tant de personnes qui sont venues, et puis l'autre que je ne vois pas en train de prier... Je ne dirais pas au Seigneur, merci pour cette femme-là. Pourquoi cette femme, cet homme? Vous voyez, ça, c'est pas bien, ça, parce que peut-être que les hommes, ils prient autant que les femmes, que cette sœur, que cette personne, voyez-vous, elle prie, mais ça ne se voit pas. Ce n'est pas ce qui se voit. Ce n'est pas ce qui se voit qui a de l'importance, voyez-vous. C'est ce que nous avons dans le cœur. C'est ce que nous avons dans le cœur. Et si celui qui est réservé, il a soif que les âmes se convertissent, eh bien, c'est ça qui est important. C'est ça qui est bon. Il va prier, il va faire ce qu'il sait faire. Peut-être prier. Si cette autre personne a soif, eh bien que des âmes se convertissent, mais elle sait parler, elle sait dire les choses. Eh bien à ce moment-là, elle va témoigner, voyez-vous. Eh bien c'est ça qui a de l'importance parce qu'elle a soif. Elle a soif. Voyez-vous, ce sont nos motivations. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ça qui a de l'importance. Et c'est ça qui est juste. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous sur un même piédestal. On est tous au même niveau. Ce n'est pas parce que je prêche ce matin, eh bien que je suis au-dessus de vous, si 30, 40 centimètres. Mais voyez-vous, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont les sentiments qui nous animent. Ce qui compte, c'est l'humilité qui nous anime. Ce qui compte, c'est l'amour qui nous anime. Voyez-vous, et nous serons jugés les uns et les autres, pas sur la base de ce que nous aurons fait, mais sur la base de ce pourquoi nous l'aurons fait. Pourquoi nous l'aurons fait? Je vais vous lire un passage et terminer par là. Si je veux rappeler quand même ça de l'apôtre Paul, il s'est donné la peine de l'écrire, on va se donner la peine de le lire. 1 Corinthiens 6, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui donne des résultats, c'est Dieu. Celui qui permet le succès, c'est Dieu. Ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a accordé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et lorsque l'on est chrétien, qu'on est dans cette position, eh bien, c'est une bonne position. Mais si je me dis... Je veux me glorifier de ce que j'ai alors qu'on me l'a simplement donné. Je donne une image. Quelqu'un de riche arrive et dit, mon ami, je te donne, allez, de toute façon, ça ne coûte rien, 100 000 euros. Ça ne me coûte rien, c'est pas moi qui les donne. Je te donne 100 000 euros. Et puis que cette personne, elle se dise, waouh, 100 000 euros, voyez-vous ce que j'ai, 100 000 euros, et qu'elle se glorifie. Mais de quoi se glorifie-t-elle? On lui a simplement donné. Franchement, c'est ridicule. C'est ridicule ou pas? Parlez pas trop vite, hein, parce qu'il y a des fois... Moi, j'ai appris à me taire, parce qu'il y a des fois, je dis vite, allez, et puis c'était pas le moment. Voyez-vous, a-t-il raison de se glorifier parce qu'on lui a donné ce que nous avons? Ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Si vous êtes capable de bien gérer votre entreprise, c'est parce que Dieu vous a donné de l'intelligence. Comprenez? C'est parce que Dieu vous a donné de l'intelligence. Soyez reconnaissant à Dieu. Si vous êtes capable de réussir dans telle ou telle chose, c'est parce que Dieu vous a donné des capacités. Réalisons ces choses. Ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors pourquoi j'irai me glorifier de ce que Dieu m'a donné, m'a accordé. C'est juste une grâce. Et la grâce de Dieu, eh bien, je veux la mettre juste à profit pour sa gloire. Pour sa gloire. Et je vous lis un dernier verset. C'est aussi l'apôtre Paul qui l'a écrit. C'est aussi aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13:3. Et ce verset, vous le connaissez. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous avez compris? Tout ce que j'ai. Mon compte, mon PEL, maintenant il y a d'autres trucs, je ne sais pas trop, parce que tous mes biens pour donner aux pauvres. C'est vraiment le summum, hein, parce qu'on peut donner le dixième, Seigneur, je donne la dîme. C'est déjà pas mal. Tous mes biens, il ne reste plus rien. Comprenez ce que ça veut dire, aux pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Franchement, brûlé, c'est pas... Vous imaginez la situation? Il y en a qui se flagellent. Il y en a, vous savez. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Et l'apôtre Paul ajoute ça. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous avez compris ce que signifie? Quand je donnerai tout ce que j'ai, si je me martyrise, je sacrifie même mon corps, eh bien, Dieu nous dit que si nous n'avons pas l'amour pour nous animer, eh bien, tout ça, c'est du vent. Ça ne sert strictement à rien. Voyez-vous, ça ne sert... C'est dur comme verset, hein? C'est dur. Et c'est pour cette raison que, vous savez, cette femme, est-ce que vous regardez ce que les personnes mettent pour l'offrande? Vous ne faites pas ça, vous. Ben, Jésus le faisait. Non, je reviens. Jésus ne le faisait pas, Jésus l'a fait. Ce n'était pas quelque chose de régulier. Jésus l'a fait. Et un jour, il y a une femme qui met une pite. Je vous promets, quand vous êtes trésorier, le centime, je ne sais même pas, vous le comptez, parce qu'en comptabilité, il faut aller jusqu'au centime, parce que si ça ne tombe pas juste, ça peut cacher une erreur. Les centimes, vous ne le comptez pas trop, voyez-vous. Par contre, le pharisien qui arrive et puis qui met... Wow. Alors là, quand on est trésorier, on se dit, oh là là. Et le Seigneur va dire quoi? Il va juste dire, mais voyez-vous, c'est cette veuve. Déjà veuve, elle n'avait plus personne pour l'aider. Il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque. Plus personne. Elle a mis plus. Elle a mis plus. Vous comprenez? Vous comprenez? On peut donner tout ce que l'on a. On peut sacrifier notre corps. C'est le fond qui compte, c'est le cœur qui compte. Et le problème, c'est que Dieu ne regardera pas les résultats. Dieu ne regardera pas les résultats. Dieu va regarder, il regarde nos cœurs, et il regardera toujours nos cœurs. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est intéressant quand même qu'il regarde nos cœurs, qu'il regarde nos motivations. Pas trop déçu? Seigneur, nous te bénissons. Parce que c'est vrai, tu es un Dieu juste. Et même si parfois des situations nous dépassent, il demeure une chose sûre, c'est immuable, c'est que tu es juste. Et dans toute situation, tu es juste. Tes jugements sont justes, tes paroles sont justes. Tu nous traites, Seigneur, et tu es juste. Alors nous bénissons ton nom. Seigneur, conduis-nous les uns et les autres, parce que nous voulons que tu nous aides à grandir avec toi, à progresser avec toi, à t'aimer davantage, à mieux te servir. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, mais nous voulons aller de l'avant avec toi. Éclaire-nous, bénis-nous les uns et les autres. Seigneur, c'est toi que nous voulons servir, c'est toi que nous voulons honorer, mais nous voulons bien le faire de tout notre cœur et être animés avec tes sentiments. Seigneur, sois béni pour ces instants. À toi la gloire. Amen.